French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Je suis de Nice, donc Nice, ça n'a rien à voir avec l'Alaska. Enfin, c'est le soleil, et c'est la plage. Et je suis arrivée en Alaska et dans mon corps, c'était « Non, mais je suis à la maison. » Et je n'ai pas compris tout de suite. À chaque fois que j'avais quelque chose d'un petit peu difficile dans ma vie, finalement, je me disais « Non, mais attends, t'as grimpé des Nalis, ça va aller, tu vas y arriver, tu peux le faire. » C'était jamais vraiment mon rêve, en fait, de venir aux États-Unis.
Ouais.
Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pour suivre mon conjoint, en fait.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Salut, salut, c'est Anne Fleur de French Expat. Depuis quelques jours, French Expat est devenu un podcast de French Morning, le média en ligne des Français des États-Unis. Je vous invite à écouter l'épisode bonus du 1er juin pour en savoir plus. Ensemble, avec French Morning, on est très heureux de continuer à raconter des récits forts et vrais d'expatriation et ça commence tout de suite. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire de Julie, qui nous parle depuis Anchorage en Alaska. Julie est arrivée aux États-Unis il y a presque 10 ans. À l'époque, elle était venue avec son mari pour faire ses études et n'avait jamais vraiment rêvé de s'installer en Floride, ni même de vivre à l'étranger d'ailleurs. La vie la mena à Boise, ou Boise, dans l'Idaho, jusqu'à ce matin de printemps 2019, jour qu'a choisi son mari pour demander le divorce. En état de choc, Julie a besoin de temps pour se trouver, pour se retrouver, pour savoir qui elle est et ce dont elle a besoin. Et la vie la mènera quelques semaines plus tard au sommet du monde dans sa nouvelle maison en Alaska puisque Julie a fait l'ascension du mont Denali, un des 7 plus hauts sommets au monde. Avant de lancer l'épisode, sachez qu'aujourd'hui nous nous consacrons sur le chemin de vie de Julie, mais que l'ascension d'une montagne telle que Denali, je ne pouvais pas complètement passer à côté, je reste très intéressée par les histoires de voyage, vous le savez. Du coup, je vous donne rendez-vous mercredi pour un épisode bonus qui se consacrera, lui, à la montée de Denali. Allez, c'est parti, next stop Anchorage Alaska, belle écoute.
Alors aujourd'hui, je vous parle depuis Anchorage en Alaska. J'ai bientôt 34 ans. Je suis originaire de Nice en France et j'habite aux États-Unis. Ça va faire bientôt 9 ans. Donc j'ai commencé par la Floride, puis l'Idaho et puis désormais en Alaska. Je travaille dans l'ingénierie et à côté de ça, j'aime beaucoup tout ce qui est activité en extérieur, donc beaucoup de ski, beaucoup de randonnée, tout ce qui est en extérieur en fait.
Donc de ce que j'ai compris, tu es arrivée pour t'installer en Floride en 2013. À l'époque, tu étais déjà mariée.
Comme tu le dis, arrivée en Floride juillet 2013, j'étais déjà mariée avec une personne française et donc on a tous les deux en fait déménagé en Floride.
Vous êtes venus pour faire quoi alors?
Alors, initialement, c'était pour terminer nos études. Et donc, notre école en France avait un accord avec une école en Floride. Et donc, on pouvait avoir un double diplôme en faisant ça, en faisant juste une année en Floride. Bah, après cette année d'études, en fait, on a tous les deux trouvé un stage aux États-Unis. Et donc, le mien s'est avéré être à Boise, dans l'Idaho. Après une année en Floride, je suis partie, en fait, dans l'Idaho.
Attends. On ralentit un tout petit peu. Petit retour sur image, t'étais où en Floride d'abord?
J'étais à Melbourne, sur la côte est de la Floride. Donc, c'est à peu près une heure à l'est d'Orlando.
Ok, donc a priori, tu me dis que ça fait presque 9 ans. Donc, effectivement, ça t'a plu, cette première expatriation. Même si je ne sais pas si on parle vraiment d'expatriation quand on est encore étudiant. J'aimerais bien creuser un petit peu. Tu vois, tu es venue avec ton conjoint, même ton mari à l'époque. On parle souvent d'expatriation comme un grand élan de liberté, notamment quand on est étudiant. Mais quand on part à deux, bah, ça change un petit peu la donne. Ça donnait quoi, du coup, cette première expatriation à deux pour vous?
C'est plus facile quand on est à deux. Et puis, il faut dire que moi, ça... C'était jamais vraiment mon rêve, en fait, de venir aux États-Unis. Ouais. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait pour suivre mon conjoint, en fait. J'avais jamais vraiment pensé à déménager aux États-Unis. Pour moi, j'avais ma vie en France, et puis j'allais faire ma vie en France, et je resterai en France. Et puis, mon ex-conjoint, à l'époque, voulait vraiment essayer. Et donc, je me suis dit, on va essayer, et puis on va voir comment ça se passe.
Très bien. Donc, te voilà partie en stage. C'est quoi? C'est pas un VIE à l'époque, c'est... Les extensions là, de Visa STEM, comment ça s'appelle déjà?
Oui, c'est un OPT.
Ah, OPT, voilà ça.
Le stage, en fait, je l'ai trouvé de moi-même depuis les États-Unis. Ça a été extrêmement compliqué à trouver. J'ai envoyé des centaines de CV, des centaines de lettres pour essayer de le trouver. Finalement, j'en ai trouvé un à Boise, dans l'Idaho, en fait.
Comment t'expliques que ça a été si compliqué?
Je pense une partie était... c'était donc en 2013-2014 et il y avait quand même toujours un petit peu les effets de la crise de 2008 qui était toujours là, en fait, dans l'industrie. Je pense aussi que les entreprises américaines avaient un petit peu de difficulté à embaucher des gens à cause du visa et à cause du fait que par la suite, ils allaient devoir sponsoriser un visa, en fait, s'ils voulaient me garder. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, en tout cas, parce que ça a bien changé maintenant, mais les Américains ne voulaient pas déménager dans l'Idaho. Il y avait ces gros préjugés sur l'Idaho.
Ah,
et
ouais.
Du coup, l'entreprise dans laquelle j'étais m'a dit, ça fait 10 ans qu'on recherche quelqu'un avec un profil comme toi et on n'a jamais trouvé.
10 ans, c'est incroyable.
Et on n'a jamais trouvé, il n'y a jamais personne qui veut venir ici, donc finalement, on va te donner ta chance.
Si on regarde une carte des États-Unis, peut-être qu'on peut essayer de le situer pour... je suis sûre qu'il y a au moins un auditeur sur deux qui ne sait pas forcément dans quel coin c'est.
Ah oui, non, mes parents non plus. Hein. Quand je leur ai dit « je déménage dans l'Idaho », c'est... Mais c'est où, ça? En fait, c'est à l'est de l'état de Washington et de l'Oregon. Donc à l'est de Seattle et Portland. C'est l'état qui est juste à côté de ces deux états-là.
Donc dans les terres.
Oui.
Juste sous le Canada.
C'est ça. Il y a une toute petite... C'est rigolo parce que quand on regarde la forme de l'Idaho, c'est une sorte... il y en a qui disent que c'est un pistolet qui est orienté à 90 degrés. Donc il y a des stickers comme ça dans l'Idaho. Mais c'est, en fait, il y a une partie très très fine qui a une frontière avec le Canada. Et puis après, ça s'étend vers le sud.
Toi, tu fais tous ces entretiens-là sans y avoir jamais mis les pieds?
J'avais été au parc national du Yellowstone avant de déménager aux États-Unis. Donc, j'avais mis les pieds dans le coin est de l'Idaho.
T'as vu le côté super connu.
C'est
quoi,
ça, mais... le côté vraiment très glamour de l'Idaho, mais j'avais jamais été à Boise avant.
Alors donc du coup, cette année de stage se passe bien? Tu y trouves ton compte?
Oui, alors ça a été un choc au début quand je suis arrivée dans l'Idaho. Et je pense que c'est parce que à l'époque, mon ex-conjoint et moi, on avait fait la route. On avait fait des détours pour conduire depuis la Floride, en fait. Et donc on était passé par tous ces paysages magnifiques et tous ces coins, ces forêts du nord du Montana, du Wyoming. On est arrivé à Boise, donc, et en fait, Boise, c'est du désert d'altitude, donc c'est très désertique. Et quand on est arrivé, c'était vraiment... j'avais l'impression que c'était tout jaune, tout triste.
Jaune ? Comment ça ?
Ben, il n'y avait pas de forêt, en fait. Ça s'appelle Boise, et on se dit, ben, ça va être au milieu de la forêt, ça va être...
non, pas
je
du
sais
tout.
Pas, ombre, il va y avoir des arbres partout. Et en fait, oui, il y a des arbres le long de la rivière, mais c'est un très fin couloir d'arbres. Et ensuite, tout autour, c'est des herbes assez basses. Et quand on est arrivé, ben, c'était tout jaune, tout, un peu tout cramé, quoi. Et du coup... Moi, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Pourquoi j'ai décidé de venir ici? Donc, bon, l'histoire dira que je m'y suis bien plus après, mais sur le coup, ça a été un gros choc.
Et tu dis que tu as fait la route avec ton copain, donc il est venu s'installer avec toi là-bas?
Ce qui s'est passé, c'est que le stage durait 6 mois, et donc moi, je suis restée 6 mois, et lui avait trouvé un stage en Floride. Et donc, on a fait la route ensemble pour me conduire à Boise, mais après, lui repartait, en fait. Et donc... C'était vraiment la première fois où on allait être séparés pendant si longtemps. Pour moi, je me suis dit, mais je vais être toute seule ici, dans cette ville. Qu'est-ce que j'ai fait?
Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de clichés qu'on entend dire « Ah, mais les Américains du sang des États-Unis, machin, machin. » Est-ce que tu peux nous tordre le cou peut-être à 2-3 clichés, tu sais, sur les Américains du centre des États-Unis, ou peut-être en tout cas l'Amérique du centre des États-Unis? Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y ressent, tu vois? Tu peux nous faire un peu rêver par cette ville de Boise?
C'est une ville assez bizarre, parce que je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire si on n'y habite pas. Enfin, il n'y a pas de raison spéciale d'y aller, en fait, juste pour visiter quelque chose.
D'accord.
Parce qu'on peut trouver tout ce qu'il y a à Boise, on peut le trouver dans d'autres villes des États-Unis. Mais par contre, pour y vivre, c'est une ville extrêmement agréable à vivre. Les gens sont adorables, vraiment très 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 gentils. Énormément d'activités en extérieur, donc pour moi qui aime ça, c'était vraiment le paradis. Les gens sur place sont aussi extrêmement sportifs et font aussi toutes ces activités en extérieur, donc c'est assez facile de trouver des gens avec des centres d'intérêt en commun. Donc ça a énormément changé par contre dans les 5-6 dernières années. Je pense que c'est devenu une ville qui est de plus en plus reconnue et où de plus en plus de gens veulent déménager.
Une grande qualité de vie ou...
C'est ça, la qualité de vie est exceptionnelle. Donc il y a beaucoup de petits restaurants, il y a beaucoup de brasseries, si on aime bien manger, il y a de quoi faire. Qui est assez surprenant, les gens s'y attendent pas vraiment, mais en fait, oui, quand on y habite, on se rend compte que c'est une ville en plein boom. Et après, il y a énormément de choses à faire en extérieur. Il y a pas tellement de visites
culturelles, tu veux dire, ou...
Oui, ils ont des petits musées, mais c'est quand même pas des musées reconnus, surtout quand on vient de France. Ils ont du ballet et du théâtre. Donc, c'est quand même assez culturel. Enfin, il y a des choses à faire culturellement. C'est peut-être pas des standards très élevés, mais il y a des choses à faire. Et puis, comme je dis, beaucoup de choses en extérieur. C'est une ville, comme ils disent, très outdoorsy. On peut faire du VTT, on peut faire de la randonnée, on peut faire... du ski en hiver et puis du rafting en été. Donc il y a des choses à faire. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'aimais pas le camping. Quand j'ai déménagé de France, j'étais là et je disais, c'est hors de question que j'aille en camping.
Ah oui, mais le camping en France, ça n'a rien à voir avec le camping aux États-Unis quand même.
On est d'accord.
Ouais, le camping en France, c'est on voit les voisins, il n'y a pas vraiment d'intimité, c'est... C'est même pas le même mindset, j'ai l'impression, un peu, tu vois, le camping dans les deux cultures, non?
Oui, voilà, on est tout à fait d'accord avec ça. Et moi, j'avais cette vision très française et je me disais, non, mais le camping, ça me plaît pas, j'aime pas ça, j'ai pas envie. Et en fait, j'ai déménagé à Boise et j'ai rencontré tous ces gens qui allaient en camping tous les week-ends. Et je me suis dit, je vais pas mourir bête, quoi, faut que j'essaie, ils ont tous l'air d'adorer ça. Et j'y suis allée et j'ai adoré.
Alors raconte un peu, fais-nous rêver.
j'ai commencé doucement. J'ai commencé par aller à Yellowstone, faire du camping avec ma voiture. Donc on a tout dans la voiture, on a la tente, tout ça, et on s'installe. Et il faut dire que Yellowstone, c'est un cadre un petit peu particulier pour aller en camping. Donc ça fait rêver, et puis c'est génial. Parce qu'on a toute la faune autour, on a toutes les choses à visiter. Donc j'ai adoré. Et puis bah, petit à petit, en fait, ça s'est transformé en... Finalement, on va partir en randonnée de plusieurs jours avec le sac à dos et puis la tente et puis...
Ah oui, c'est quand même une étape plus loin, ça. C'est,
oui.
Ouais. C'est pas ouvert à tout le monde.
Je veux dire, ça dépend jusqu'où on va, en fait. Mais pareil, on avait fait ça dans Yellowstone aussi. Boise, c'est à 5 heures de route, 5-6 heures de route de Yellowstone, donc c'était un petit peu le parc facile dans lequel on pouvait aller tous les week-ends pour se ressourcer.
Ça me fait trop rire qu'on dise ça. Je veux dire, en France, tu te dirais pas, je sais pas, j'habite à Strasbourg, c'est cool, je suis pas loin, je peux aller à Versailles tous les week-ends, quoi. Enfin, tu vois, 6 heures de route, en fait, c'est rigolo quand même, les échelles, ça te fait vraiment revoir tes
tout
standards.
Tout à fait. Je me souviens quand j'étais en France... Conduire 5 heures, c'était... Non, mais c'est hors de question, je ne vais pas conduire 5 heures pour
un week-end. Pour les grandes vacances. Ouais. Trop bien, d'accord. Donc du coup, c'est cette initiation au camping, à l'outdoors. Tu es plutôt convaincue. Du coup, tu fais 6 mois seule à Boise, c'est ça ?
C'est ça. Donc 6 mois seule. Et puis, au bout de 6 mois, mon entreprise me propose de sponsoriser mon visa de travail. Donc, on commence le processus, en fait, pour sponsoriser le visa. Et en fait, à l'époque, mon ex-mari, son entreprise à lui, en Floride, ne veut pas le sponsoriser. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il déménage avec moi à Boise, en fait. C'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, bah, on s'est installé.
Ouais, comme vous êtes mariés. Oui. D'accord, donc il te rejoint.
Finalement, à cette époque-là, on avait la situation parfaite parce que je pouvais aller en Floride de temps en temps et profiter un petit peu de la Floride et puis revenir dans l'Idaho. Ouais. Et puis j'avais ces petits voyages, ces petits week-ends au milieu qui coupaient un petit peu leur routine.
Donc tu as eu le meilleur des deux mondes.
C'est ça.
Comment continue du coup votre vie ? Donc lui, il cherche un boulot quand il arrive à Boise ?
C'est ça, oui. Donc il cherche un boulot. Ça s'avère un petit peu compliqué. Boise, ça reste une petite ville finalement. Et ce qui se passe, c'est que... Bah, coup du destin, hein, comme souvent. Un des employés de ma compagnie décide de partir. Et du coup, moi, je leur dis, ben voilà, il y a cette autre personne. Vous savez comment je travaille. Cette autre personne est disponible. Et donc, du coup, il arrive à se faire embaucher par mon entreprise qui sponsorise les deux visas, du coup. Et donc, c'est un visa H1B. Donc, pour ceux qui savent, le visa de travail est assez, assez commun aux États-Unis, mais... qui, quand l'un n'a pas de visa, on se retrouve en visa H4 et du coup, on ne peut pas travailler.
Et là, lui, ce n'est pas son cas, du coup.
À l'époque, en 2015, je crois qu'il y avait 220 000 demandes de visa et 85 000 visas disponibles. Et donc, ils sont passés par la loterie. Et gros coup de bol, on a tous les deux été sélectionnés pour le visa H1.
Génial. Alors du coup, votre petite vie dans l'Idaho se passe plutôt bien ?
C'est ça. Bah, pour moi, on est arrivés en fait. On est tous les deux dans la même ville. On a tous les deux notre visa. On est en discussion avec l'entreprise pour sponsoriser une carte verte. On arrive en novembre 2015 et on décide d'acheter une maison. Donc en fait, on est établi, quoi. On a
vous tout... installez quoi.
Ouais. C'est ça, on est installé, on fait notre petite vie, on fait nos petites activités en extérieur, on randonne, on profite de la vie.
Alors voilà pour le contexte. Mais si Julie et moi, nous avons décidé de préparer cet épisode, c'est parce que sa vie personnelle a subi un véritable tremblement de terre, aussi inattendu que violent.
En novembre 2015, mon superviseur dans ma compagnie actuelle me dit ben, « Écoute, je change d'entreprise ». Et j'aimerais vraiment que tu me suives et j'aimerais vraiment que tu viennes bosser dans la nouvelle entreprise. Moi, j'ai fait quelque chose que je me sens pas très bien, mais bon, c'est la vie. En fait, en gros, je travaillais dans cette entreprise qui a sponsorisé mon visa. Et le visa est en fait, on postule en mars pour commencer le travail en octobre. Et donc, en fait, ils ont fait ça pour moi et en octobre, juste après que le visa ait commencé, je leur ai dit « Bon ben, désolé, mais je change d'entreprise ». Ils l'ont pas très bien appris, mais...
Bah ouais.
Mais d'un autre côté, ben, c'est la vie.
C'est partie du jeu, hein, c'est comme ça, bien sûr.
Et puis, je leur ai dit, c'est votre ancien employé. Il m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Donc, en novembre 2015, moi, je change d'entreprise, toujours à Boise. Et ça se passe jusqu'en 2019. On a tous les deux nos cartes vertes. Lui est resté dans l'ancienne boîte et moi, j'ai changé d'entreprise. En mars 2019, il se dit finalement, j'aimerais bien aussi changer d'entreprise. Maintenant, j'ai ma carte verte, donc c'est plus facile.
Ouais, t'es plus dépendant d'un employeur.
C'est ça. Et donc, moi, je l'aide à rejoindre l'entreprise dans laquelle je travaille. Ouais, je parle à mon superviseur, j'essaye un petit peu d'avoir des informations. Enfin, j'essaye de pousser un petit peu, en gros, pour l'aider à changer d'entreprise. Il obtient le poste, il est accepté, et puis le lendemain de son premier jour, il me dit finalement, je t'aime plus et je veux un divorce. Quand j'y repense, c'est mon monde qui explose devant mes yeux, en fait. J'ai rien vu venir, j'ai aucune idée, j'ai été complètement prise au dépourvu, complètement inattendue de mon côté, et c'est un gros, gros choc.
Lui, il veut rentrer en France ? Enfin, qu'est-ce qui... Non, en fait, il a eu son nouveau job.
Je pense que c'était pas très clair dans sa tête à ce moment-là non plus. Je sais pas s'il a vraiment réfléchi, en fait, ou je pense pas qu'il ait pensé aux conséquences, parce que si on y pense, on se dit finalement, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train d'accepter un travail pour le lendemain lui dire ça, et ça va être quand même bizarre de travailler dans la même entreprise dans ces circonstances, donc je pense qu'il a pas tellement pensé.
Et donc là, vous, à ce moment-là, vous étiez à quelques semaines, à 2 mois et quelques, de grimper Denali. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est ?
Denali, c'est la plus haute montagne du continent nord-américain. Donc c'est 6190 mètres. C'est un des 7 sommets. Il y a, dans le monde de l'alpinisme, il y a cette référence aux 7 sommets, donc les 7 sommets les plus hauts des 7 continents. Il y a des gens, alors maintenant que j'habite en Alaska, je temporise un petit peu ça, mais il y a des gens qui disent que c'est plus dur que l'Everest, en fait. Moi, c'est ce que j'aime faire, donc pour moi, ça ne m'impressionne pas tellement, tu sais, de me dire j'ai grimpé Denali, alors que les gens sont souvent très impressionnés. Les gens s'entraînent, enfin, c'est un an d'entraînement. Et ce qui est dur avec cette montagne, c'est qu'il n'y a pas du tout de porteur. Donc, en fait, on porte tout depuis le début, en fait, depuis base camp jusqu'au sommet. On porte tout soi-même. On a un gros sac à dos et on tire un traîneau derrière. Alors qu'il y a beaucoup d'autres montagnes comme ça où on fait appel à des porteurs. Ouais. Ce qui aide un petit peu.
Les Brest, notamment, pas mal. Hein.
C'est ça, oui. C'est en Alaska, ça prend entre 15 jours au vraiment plus court et un mois en fonction de la météo, oui. Et donc oui, nous, on est censé faire ça tous les deux, ça fait un an qu'on s'entraîne, ça fait un an qu'on a prévu de le faire. Le divorce, tout ça, se passe en mars 2019 et on est censé partir le 27 mai 2019, donc
wow.
2 mois après. Ouais. Nous, on a décidé de faire appel à des guides, donc d'y aller guider. Là, maintenant, en Alaska, j'ai énormément de mes amis qui sont allés sans guide. Donc... mais à l'époque, nous, on décide d'y aller guider et on a tout réservé. On a réservé les guides, on a réservé le billet d'avion, ouais. On a réservé enfin, tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, on a l'équipement.
Alors donc, du coup, la question pour toi, c'est quoi ? C'est je reste, je rentre ou je grimpe, c'est ça ?
C'est en ça, bah, voilà, exactement. En résumé, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant ?
Ouais, c'est ça, en fait, t'as la question de cette rando et en même temps la question plus large, à quoi va ressembler la suite, quoi, en fait ?
Exactement. Alors, pour moi, la question d'aller à Denali, elle s'est jamais vraiment posée.
D'accord.
Pour moi, c'était j'y vais. C'est bon, je me suis enregistrée, ça fait un an que je m'entraîne, j'abandonne pas ça maintenant, j'y vais. Je dis pas, j'ai eu des moments de doute. J'ai eu des moments de doute où j'ai appelé mes parents en pleurant et en me disant mais je vais pas y arriver, je vais pas en être capable. Mais tu te rends pas compte, je vais devoir partir 3 semaines et rester 3 semaines dans la neige et je peux pas le faire. Et donc mes parents ont toujours été là en me disant mais non, enfin tu t'inquiète pas, même si tu y arrives pas, il faut que tu y ailles. Donc la question de Denali, c'était jamais vraiment. Oui, il y a eu des moments de doute, mais je voulais y aller. Par contre, il y a eu la grosse question de est-ce que je reste aux États-Unis ou est-ce que je rentre en France ? Et cette question-là, ça a été la question un peu plus compliquée. Bon, on ne sait jamais si on a pris la bonne décision finalement, hein. Ça, on ne peut pas savoir. Mais pareil, je sais que mes parents m'ont beaucoup dit « Non, mais il faut que tu restes aux États-Unis. » T'as l'air beaucoup plus heureuse depuis que t'es aux États-Unis.
C'est ouf que tes parents aient eu ce recul-là d'encourager.
Oui, j'étais.
C'est rare.
J'étais vraiment surprise aussi. J'étais vraiment surprise parce que je suis fille unique, donc pour eux c'est quand même pas facile.
Ils ont peut-être réaménagé ta chambre, ils veulent pas te la rendre.
C'est ça. Ça doit être ça. Faudra que je regarde la prochaine fois. Non, quand je les ai appelés, ils ont eu cette réaction qui m'a. Sur le coup, ça m'a prise au dépourvu. Ils étaient là, ils ont dit non, mais c'est hors de question que tu rentres. J'étais là et je disais mais vous m'aimez plus, pourquoi vous voulez pas que je rentre ? Et puis non, bah finalement, c'était vraiment, ils voulaient le meilleur pour moi. Et puis beaucoup de gens m'ont dit aussi, quand c'est des grosses décisions comme ça, il faut éviter de les prendre tout de suite après un divorce, parce que c'est pas un moment, on n'est pas dans un état émotionnel de prendre des grosses décisions. Bon, j'ai pas vraiment écouté parce que 3 mois après, je déménageais en Alaska, donc c'était une grosse décision, mais...
Chronologiquement, t'es allée grimper Denali avant ou après de savoir ce que t'allais faire ? Parce que j'imagine qu'en fait, justement, cette rando aussi, ça peut être un peu ton chemin, en fait, à toi, au sens figuré comme littéral, en fait, pour te retrouver, pour savoir ce que tu veux faire, parce que je sais pas combien de temps est-ce que tu l'as fait, mais t'as quand même quelques semaines pour faire le point, justement, sur là où t'en es dans ta vie.
Tout à fait. Moi, je dis que sans Denali, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Je n'aurais pas progressé aussi vite, en fait, dans mon deuil. Parce qu'un divorce, ben, y a beaucoup de gens qui le décrivent comme un deuil. Et c'est tout à fait ça. On passe par toutes les étapes. La tristesse, la colère, toutes ces étapes-là, j'y suis passée. Mais je pense que le fait d'avoir été sur Denali, ça m'a forcée à passer ces étapes un petit peu plus vite. Et ça m'a permis de me retrouver. Ce qui s'est passé, c'est que... J'ai dit à mon ex, je lui ai dit, bon, t'as pris beaucoup de choses, tu me prendras pas Denali. Je veux le faire. Tu peux venir si tu veux, je serai parfaitement cordiale, je te parlerai pas, enfin, je te ferai pas de scène ou quoi que ce soit. On demandera à être dans 2 tentes différentes, on demandera à être dans des cordées différentes, juste pour qu'on soit pas en cordée ensemble. Mais si tu veux venir, je serai cordiale. Mais moi, j'y vais. Voilà, c'était ma chose, c'était mon état. Moi, j'y vais. Et finalement, une semaine avant le départ, il m'a dit « Bon, ben, moi, j'y vais pas. » Sur le coup, c'est pareil, c'était dur parce qu'on était mariés très, très jeunes, on était ensemble depuis 12 ans et moi, j'avais jamais vraiment rien fait toute seule. Le fait qu'il me dise « J'y vais pas », en fait, au fond de ma tête, je me disais quand même « Ben, il y aura quelqu'un que je connais ». Donc, ça sera quand même plus facile.
C'est un peu rassurant.
C'est ça, c'était très rassurant de me dire, je vais faire cette chose, mais je vais la faire avec quelqu'un, bon, même si on n'a pas la meilleure relation du monde à ce moment-là, avec quelqu'un que je connais et qui, quand même, si quelque chose arrive, sera là pour moi. Et donc, il m'a dit, j'y vais pas. Et là, je me suis dit, mince, est-ce que j'y vais ? Et bon, j'y suis allée et ça a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que pendant 18 jours, j'avais... pas internet, j'avais pas de téléphone, j'avais rien du tout et c'était juste...
Une vraie coupure de lui.
C'est ça, une vraie coupure de tout. Et mettre un pied devant l'autre et survivre en fait. C'est vraiment, on retourne à l'essentiel. Et il faut prendre soin de soi, il faut juste marcher. C'est bête à dire, mais en fait, on est avec ses pensées, en fait, et on marche, et puis ça aide à un petit peu les accepter, en fait.
Je me permets de faire une toute petite pause dans le récit qu'on écoute. Aujourd'hui, on se concentre sur l'histoire de Julie et sur son chemin de vie. Comment est-ce qu'elle s'est reconstruite suite au divorce complètement inattendu qui lui est arrivé sur le coin du nez en pleine expatriation. Mais vous me connaissez, moi Anne-Fleur, moi aussi je suis complètement passionnée d'aventure, de nature, de récits de voyage. Alors oui, nous allons parler de la montée de Julie de Denali, hein, donc des plus hauts sommets au monde, au fin fond de l'Alaska. Ce sera l'objet d'un autre épisode. Surveillez votre feed de podcast pendant la semaine, puisque ça ne saurait tarder. Assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper cet épisode spécial, la montée de Denali, comme si vous y étiez. Allez, on retourne à l'histoire de Julie.
Donc, tu redescends de ta montagne. Tu es en Alaska. Est-ce que tu prévois de rester un petit peu en Alaska avant de repartir dans l'Idaho? Comment ça se passe?
C'est ça. Alors, avant de partir vers l'Alaska, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend un billet aller et puis on ne sait jamais quand la montée se termine. Et donc, en fait, ils nous disent, prenez un billet au moins un mois après la montée. Au pire, vous changerez votre billet. Et en fait, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que le prix des billets qu'on pouvait changer à l'époque était vraiment beaucoup plus cher. Et comme on devait toujours payer la différence de toute façon, en fait, il valait plus le coup de prendre un billet aller simple et d'acheter le billet retour au dernier moment, une fois qu'on était en bas de la montagne. Donc, j'avais fait tous les calculs et tout ça, et j'étais sûre que c'était la façon de faire, celle qui marcherait et celle qui me permettait de payer le moins. Donc, avant le départ, en fait, je demande à mon superviseur et je lui dis, écoute, là, la situation, elle est un peu bizarre quand même, parce que on est en train de divorcer, on travaille au même bureau, et moi, le voir tous les jours, c'est dur, quoi. En fait, il le savait qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce que après le divorce, en fait, les gens, ils me disaient bonjour et je me mettais à pleurer, en fait.
Oh, ouais.
C'était dur. Psychologiquement, j'étais dans un état, j'étais pas dans un état, quoi. Et je lui dis, écoute, j'ai ce billet aller vers l'Alaska, je pense que ça me ferait du bien de rester en Alaska pour quelques semaines. Ma compagnie avait un bureau en Alaska et je lui dis, je pourrais travailler du bureau en Alaska, ça changerait pas grand chose. Est-ce que je peux le faire? Ils ont été géniaux. Je sais qu'on parle beaucoup d'entreprises aux États-Unis en disant ils prennent pas très soin de leurs employés, tout ça. Et mon superviseur, il a été vraiment fantastique et il m'a dit, non, écoute, là, je comprends, la situation, elle est un peu particulière quand même. Fais-le. Vas-y, prends autant de temps que tu veux. Si tu veux travailler dans Courage, travaille dans Courage. Ils m'ont pas donné d'argent pour me permettre de me loger ou quoi que ce soit. C'était vraiment, c'est ta décision. T'as pris cette décision de travailler de là-haut. Nous, on te soutient dans ça, mais bon, t'auras pas de compensation pour travailler de là-haut. Et moi, je dis, non, mais je veux pas de compensation. Je veux juste pouvoir le faire. Je redescends de ma montagne et puis je commence à travailler de l'Alaska, en fait. Pour la petite histoire, un de mes collègues devait essayer de me trouver un logement en Alaska. Et finalement, 2 jours avant le départ pour Denali, j'avais toujours pas de logement pour le séjour après Denali. J'étais au restaurant avec une femme que j'avais Elle m'avait conduit à l'aéroport quelques semaines auparavant. Et c'est pareil, elle avait vu que j'étais pas vraiment dans un état normal. Et elle m'avait dit, écoute, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et je me dis, j'ai pas vraiment d'amis à Boise, puisque c'était juste mon ex et moi. Donc j'avais pas énormément d'amis à ce moment-là. Et je lui dis, je suis en train de divorcer. Et puis, voilà, quoi, je me sens seule. Et elle me dit, je suis passée par là aussi. Écoute, c'est mon numéro de téléphone. Si tu veux quoi que ce soit, tu m'appelles.
Putain, c'est adorable.
On est devenues bonnes copines, en fait. On a connecté comme ça. Et on était au restaurant toutes les deux. Et je lui dis, oui, je pars pour Denali, tout ça. Et puis après, j'espère rester en Courage. Et elle me fait, mais tu vas faire comment pour le logement? Et je fais, je sais pas, un de mes collègues est censé m'aider, mais pour l'instant, j'ai rien. Elle me fait, mais tu pars dans 2 jours. Et je fais, j'espère que ça va marcher. Enfin, au pire, je sais pas, je trouverai quelque chose, quoi. Et elle me dit, non, mais attends, j'ai une de mes copines, elle habite à Anchorage. Alors, peut-être que je peux,
non,
je
mais
peux
sérieux.
Te trouver quelque chose. Et du coup, bah, sa copine m'a hébergée pendant 2 mois, en fait.
Ah, vache, mais les gens mais sont d'une gentillesse énorme.
C'est ça, c'est ça. Et c'est là où en fait, c'est une des choses que j'apprécie aux États-Unis, c'est que les gens sont adorables et ils veulent toujours aider. Enfin, moi, c'est ce que j'ai réalisé, c'est à quel point les gens veulent t'aider quand tu traverses des périodes difficiles et à quel point les gens se soudent, en fait, pendant les moments difficiles. Donc ça m'a touchée parce que c'est pareil, en fait, je suis seule, j'ai pas beaucoup d'amis et cette femme que finalement je connais que depuis quelques semaines, elle a été là et elle voulait vraiment m'aider, quoi. Elle voulait que j'aille mieux et donc c'est extrêmement touchant, en fait.
Te voilà donc logée. Tu en profites du coup pour découvrir l'Alaska, pas trop vu du ciel, enfin pas que vu du ciel.
C'est ça, c'est ça. J'en profite pour aller explorer en fait Anchorage. Et donc là, on est en juin-juillet 2019. L'Alaska en été, c'est difficile à battre. Hein. C'est vraiment exceptionnel, c'est magique. Enfin, moi, j'adore.
Moi, le peu que je connais de l'Alaska, en fait, c'est les images de Into the Wild, quoi. Comme j'imagine beaucoup de gens.
Mais c'est ça, en fait. C'est tout à fait ça. Ben, je tombe amoureuse de l'Alaska, mais complètement. Il y a des gens, par contre, qui disent que c'est un petit peu un piège parce qu'on vient en été.
Et qu'en fait, l'hiver dure 9 mois.
C'est ça.
Est-ce qu'on est sur du cliché, tu vois, quand on s'imagine qu'il neige tout le temps, que... Enfin, ça ressemble à quoi, l'hiver, du coup, en Alaska?
Alors, ça dépend où on est.
Ouais, c'est tellement grand.
Et puis, ça dépend ce qu'on aime faire aussi. Donc, pour moi, qui adore skier, la neige, ça ne me gêne pas. Au contraire, j'en veux plus. Donnez-moi plus de neige. Anchorage, c'est un petit peu au bord de la mer. Et donc, il ne fait jamais extrêmement froid. Bon, ça peut descendre à moins 20, moins 30. Mais d'habitude, ça dure une semaine en janvier, peut-être une semaine en février.
Ah ouais.
Et puis après, c'est toujours autour de moins 10, peut-être. Et donc, c'est pas si terrible que ça si on a un équipement. Donc, il fait pas si froid que ça. Et après, il y a énormément de... Enfin, pour les gens qui aiment le ski, c'est le paradis parce que juste en dehors de la ville, à une demi-heure de route, on peut aller skier dans les montagnes, en fait. Par contre, ce qui est dur, c'est la pénombre.
Ah ouais.
Parce que en hiver, il fait nuit autour de 3h30, mais nuit noire. Et ça se lève à 10h du matin.
Ah, t'es comme en Islande, en fait.
C'est ça. Oui, très proche de l'Islande, oui. Et donc ça, je sais que la pénombre, c'est difficile. Et je pense que plus que la neige, c'est vraiment le noir qui affecte les gens.
Ouais. Tu sens que les gens, ils sont un peu tristous, ils sont un peu mélancoliques en hiver?
Ah oui, on le sent. Et même moi, ça m'affecte. Cet hiver, en janvier, j'ai eu cette période à me dire... Tout va mal et je déteste ma vie. Et on a eu des très belles journées en janvier, donc le soleil est revenu et puis j'ai été skier et puis je me suis dit non mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis janvier, février, mars arrive et le mois de mars, c'est vraiment un des meilleurs mois pour moi parce qu'il commence à faire jour plus longtemps et il fait soleil et on a toujours de la très bonne neige et tout le monde arrive en mars et on respire. Ça y est, on a passé l'hiver, on a passé le plus dur. La plupart des gens, en fait, ils partent une semaine en février pour essayer de... Beaucoup vont à Hawaï pour essayer de... Yes, c'est ça.
Trop chouette. Écoute, tu me donnes envie de faire mes valises et de venir faire un tour. Je savais que j'avais envie de voir l'Alaska, mais franchement, tu me donnes vraiment, vraiment envie. Alors donc, du coup, là, tu nous parles d'Alaska. Donc, spoiler, a priori, c'est que tu as décidé d'y refaire ta vie. À quel moment est-ce que tu t'es dit « Non, mais attends, mais en fait, c'est ici absolument qu'il faut que je sois, quoi. »
Eh bien, bizarrement, quand j'ai atterri à Anchorage avant de grimper Denali...
Ah ouais, tu l'as su tout de suite.
J'ai eu ce sentiment et je ne suis pas très spirituelle. Je sais pas, j'ai jamais vraiment écouté mon corps. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut écouter son corps et tout ça. Et moi, ça m'a toujours un petit peu passé au-dessus de la tête. J'étais très cartésienne. Et j'ai eu ce sentiment au fond de mon corps de me dire, ça y est, je suis à la maison. Et c'est bizarre parce que je suis de Nice. Donc Nice, ça n'a rien à voir avec l'Alaska. Enfin, c'est le soleil, et c'est la plage. Et je suis arrivée en Alaska et dans mon corps, c'était, non, mais je suis à la maison. Ah, et je n'ai pas compris tout de suite. Et donc, je suis allée d'Enali, je suis restée après. Et en fait, très vite, très très vite, début juillet, j'ai dit à mon superviseur, écoute, je me sens vraiment bien ici. J'adore la vie ici. Est-ce que je pourrais transférer et travailler d'Anchorage à la place de Boise?
Et il a dit oui.
Il a dit oui. Bah, encore une fois, hein, je pense que dans d'autres circonstances, ils auraient peut-être pas été aussi flexibles que ça. Mais là, bon, ils se sont dit, bah, il faut les séparer, quoi. Et puis, ils seront beaucoup plus efficaces s'ils sont pas à se voir toute la journée, quoi.
Trop, trop bien. D'accord. Donc, du coup, retour en Idaho pour gérer le déménagement. Et puis, tu vis en Alaska depuis septembre 2019, si mes notes sont exactes.
C'est ça. Donc, j'ai conduit depuis l'Idaho.
Ah, t'aimes bien faire des road trips, toi.
Oui, oui, oui. J'aime bien les road trips. Et en fait, j'avais jamais conduit avec une remorque avant. En fait, j'ai dit à mon père, je dis, écoute... Là, j'ai des affaires quand même à amener en Alaska. J'ai vachement d'affaires. Je vais louer un U-Haul, une petite remorque. Et puis, je vais tirer la remorque derrière la voiture. Et mon père, il m'a dit, non, mais t'es folle. T'as jamais conduit avec une remorque. Et maintenant, tu fais 5000 km avec une remorque. Non, mais tu réalises. Bah oui, mais bon, j'ai pas le choix de toute façon.
En fait, c'est comme si Denali t'avait donné des ailes un peu, quoi.
Un petit peu, oui, un petit peu.
T'as besoin de personne pour faire ce que t'as envie de faire, quoi. Tu fais ce que tu penses être bien et ce que t'as envie de faire. Et ça veut pas dire que t'as besoin de personne dans ta vie, mais tu t'écoutes vachement plus et puis tu tentes, quoi.
C'est tout à fait ça. Oui, j'essaye. Et je me dis, ben écoute, ça marchera, ça va marcher. De toute façon, il faut que ça marche. Mais encore une fois, bon, je sais que là, pendant cet épisode, je donne un peu l'impression que c'est tout facile et tout ça, mais ça n'a pas été facile. Hein. Il y a eu énormément de doutes, il y a eu énormément de pleurs, il y a eu énormément de « je ne vais pas y arriver ». Mais l'idée d'aller en Alaska, c'était dans ma tête et c'était « non, il faut que j'y aille ». Je ne sais pas pourquoi, il y avait ce sentiment qu'il fallait que j'y aille. Et du coup, bah, j'y suis allée. Et puis la remorque, bah... en fait... pour aller en Alaska, on peut soit mettre sa voiture sur un bateau, soit faire la route. En ce moment, à cause du Covid, c'est fermé, donc on ne peut plus vraiment faire la route. Mais moi, j'avais vraiment, vraiment envie de faire la route. Et donc, je me disais, ben, je n'ai pas le choix, donc je veux faire la route. Donc, on y va avec la remorque et puis j'apprendrai.
Donc, tu traverses quoi, une partie du Canada?
C'est ça. En fait, de l'Idaho, tout droit au nord, c'est le Canada. Donc, j'ai visité Jasper et Banff, sont assez... Oui, sont...
Ça a l'air tellement
c'était
magnifique.
C'était magique.
Ouais. Je vous invite à faire un tour sur le blog de Fanny, qui gère le blog de French Expat, qui poste plein de photos de ce coin-là. C'est absolument magnifique.
Oui, les photos ne rendent pas toujours justice. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et puis ensuite, j'ai bifurqué à l'ouest. Et puis, j'ai pris... Ça s'appelle la Cacher Highway. Et donc, en fait, il y a deux routes pour aller en Alaska depuis le Canada. On peut prendre l'Alcan, qui est un peu plus du côté de Calgary et de l'Alberta. Et on peut prendre la Cacher Highway, qui est en Colombie-Britannique et qui est un petit peu plus sauvage. Et donc, bah, évidemment, j'ai voulu prendre la route sauvage.
T'as mis combien de temps à faire cette traversée jusqu'à l'Alaska?
J'ai pris 10 jours. J'aurais aimé avoir plus, mais bon, on ne peut pas toujours tout avoir. En fait, j'avais passé beaucoup de temps... dans Jasper et Banff, et après j'ai eu deux grosses journées, 12 heures de route en fait, juste on conduit. Si on a un peu plus longtemps, ça vaut le coup de s'arrêter un peu plus, mais...
C'est une sacrée aventure qui t'a amené en Alaska sur plein de points de vue différents. Et si là, tout de suite, je ferme les yeux et que tu me transportes en Alaska, qu'est-ce que je vais ressentir? Qu'est-ce que je vais sentir tout court? Qu'est-ce que je vais voir? Tu vois, quelle est l'atmosphère de cette ville?
Anchorage, c'est assez particulier. Pour être honnête, c'est pas la ville la plus glamour des États-Unis. Mm-hmm. Je vais commencer par le négatif parce que tout n'est pas toujours positif. Y a énormément de problèmes de drogue et il y a énormément de problèmes de sans logement, homelessness.
Ouais, de sans-abri.
De sans-abri, voilà, merci. Il y a des gens qui la surnomment Los Anchorages, après Los Angeles, pour dire que c'est une ville où il y a un petit peu de crime. C'est comme partout, hein, il y a des quartiers où on évite d'aller, des quartiers qui sont plus agréables. J'ai pas vraiment le sentiment d'insécurité. Enfin, on sait qu'il y a de l'insécurité, mais j'ai jamais vraiment eu ce sentiment, en fait. C'est une ville, c'est vraiment bizarre à décrire parce que il y a des côtés de la grande ville américaine, il y a des buildings, une ville typique américaine, et à côté, c'est dans les montagnes, en fait. À 15 minutes de route, il y a des montagnes, et on peut se retrouver dans la nature sans voir personne du tout. C'est un sentiment un peu particulier parce que si on recherche tout ce qui est culturel, sortie, etc., c'est pratiquement inexistant. Mais par contre, si on recherche tout ce qui est nature, il y a énormément de coins sauvages juste à côté de la ville. Et donc, on a par exemple, on a des élans, mousses, dans la ville.
Enfin, moi, dans la ville
j'ai retrouvé... Oui, j'en ai déjà retrouvé dans mon jardin.
Ça peut charger en plus un animal comme ça.
C'est ça, c'est ça. On a aussi des ours. Donc à la fois ours noir et grizzly, qui sont aussi dans la ville. Hein.
C'est fou. C'est une grande ville en Corée.
C'est assez étendu au niveau surface. Enfin, assez étendu. On peut traverser la ville en 25 minutes à peu près. C'est pas Houston, ouais. Mais moi, j'ai l'habitude des petites villes. Donc, et je crois qu'il y a autour de 220 000 habitants. Donc, c'est pas très, très grand. C'est pareil, c'est assez bizarre. En fait, en particulier, quand on aime tout ce qui est activité en extérieur, tout le monde se connaît. Et on a l'habitude de dire qu'on est tous reliés à un degré de séparation, en fait. Ouais. En fait... mes amis connaissent tous les autres gens, en fait, qui aiment les activités en extérieur, ce qui est bien et pas bien à la fois. Il n'y a pas beaucoup d'anonymat, en fait. J'ai été longtemps connue comme French Julie.
C'est vrai.
Donc, les gens savaient qui j'étais, en fait, et moi, je ne savais pas qui ils étaient. Donc, c'est un sentiment assez ouf. Bizarre. Ce qu'on dit beaucoup aux touristes, c'est que beaucoup de gens ont plus peur des ours que des élans. Les élans, c'est assez... moi, ils me font très peur parce qu'on peut se faire charger dans la ville. En fait, il y a pas mal de chemins pour marcher, en fait, y compris dans la ville. Et donc, même sur ces chemins-là, on peut les trouver. Je sais que cet hiver, en fait, j'étais en train de vider ma voiture et j'avais mon garage ouvert. Et donc, il y en a un qui a tourné au coin de ma maison, en fait, et qui m'a regardé. Qui s'est arrêté et moi j'étais entre en fait mon garage et la portière de la voiture et il y avait cet élan qui me regardait en fait, qui me faisait face et je me suis dit non mais est-ce qu'il va me charger, est-ce que je vais être obligée d'aller dans mon garage quoi. Et puis finalement il a marché un peu plus loin et puis il est parti manger les herbes du voisin.
Incroyable, ah, ça paraît complètement, complètement fou. C'est quand même complètement dingue hein, parce que t'es partie aux États-Unis à la base pour faire plaisir à ton ex. Parce que ça ne t'intéressait pas particulièrement. Comme quoi, de rester ouvert au plan des autres, parce qu'on peut y trouver carrément notre compte. Quoi. Là, tu penses y être pour un bout de temps, t'établir vraiment en Alaska?
C'est difficile, j'espère. Et en même temps, il y a des aspects de la vie en Alaska qui sont un peu plus compliqués, notamment tout ce qui est relations amoureuses, on va dire. Ouais. C'est assez difficile ici. Le choix est assez limité de par la population évidemment. Et puis en fait, ils disent the odds are good, but the goods are odd. Donc les
chances sont bonnes, mais ouais, c'est un jeu de mots parce que odds veut dire bizarre quoi. Mais les biens sont bizarres.
C'est ça, c'est le jeu de mots sur les probabilités et ce qu'on reçoit au final. Ce qu'il y a, c'est vrai. Mais bon, je pense que j'ai arrêté de faire des plans, en fait, parce que j'ai toujours planifié énormément. Je planifiais ma vie, je planifiais comment je voyais les choses. Pour moi, en fait, j'avais jamais prévu de divorcer et je pense que personne ne prévoit jamais de divorcer. ça m'a prise complètement au dépourvu, en fait, et c'était cette chose complètement inattendue qui est arrivée, qui a, ma vie a complètement explosé, en fait, devant mes yeux. Et du coup, maintenant, je me retrouve dans une situation où, bah, où je me dis, de toute façon, oui, t'avais prévu tous ces plans, t'avais prévu de faire des enfants, t'avais prévu de grimper des nalis, t'avais prévu tout ça. Et en fait, bah voilà, la vie, elle te donne pas toujours ce que tu prévois. Et donc, je suis dans un état d'esprit où je me dis, ben, on verra, en fait. J'ai pas vraiment de plan. J'ai pas vraiment de... Enfin, je me dis pas vraiment, ah, t'es là pour 3 ans et puis après, tu déménages ou, ah, tu vas rentrer en France, en fait. Je sais qu'à court terme, je veux demander la nationalité américaine. Donc, je vais pas quitter les États-Unis avant d'avoir la nationalité. Juste parce que ça a été tellement difficile d'avoir une carte verte, ça a été tellement de travail, tellement de stress. Et si on quitte les États-Unis pendant qu'on a une carte verte, on n'a pas forcément moyen d'en avoir une autre après. Donc pour moi, je veux vraiment me dire, j'ai pas fait tout ça pour rien, donc je demanderai la nationalité. Et puis ensuite, si jamais je veux déménager dans un autre pays, pourquoi pas. Mais j'ai pas vraiment de plan ou de projet.
Tu restes ouverte à la suite, quoi.
C'est ça. J'ai des moments où je me dis finalement, est-ce que faudrait pas que je rentre en France ? J'avoue, il y a des moments de doute. La dernière fois que je suis rentrée en France, ça fait un petit peu de temps maintenant. Et en particulier, les moments de doute, c'est plutôt parce que bah, l'assurance santé aux États-Unis, tout ce qui est lié aux enfants, tout ça, c'est tout extrêmement cher. La retraite aussi, c'est des questions un petit peu compliquées. Et donc, j'ai ces moments où je me dis, finalement, ça serait quand même beaucoup plus simple en France. Et puis, ça reste quand même mon pays, même si ça fait un moment que je suis partie, ça reste mon pays. Mais la dernière fois que j'étais en France, donc c'était décembre 2019, je suis restée 3 semaines. Et après 15 jours, j'étais là et je me disais, non, mais ramenez-moi chez moi maintenant. Ah, je veux rentrer chez moi. Juste parce que j'ai l'impression qu'en France, c'est toujours... Tout est compliqué. Il faut toujours se battre un petit peu. Quand on conduit, il faut se battre parce que les gens, ils essayent de nous passer devant. Quand on va au supermarché, dans les files d'attente, il faut essayer de montrer qu'on est là et qu'on a une présence et garder notre place, en fait. Et moi, ça me fatigue, tout ça.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une mentalité très différente là-dessus. Et en fait, je pense que c'est culturel. Ça ne veut pas dire que les gens sont méchants ni quoi que ce soit, mais... Aux États-Unis, je trouve les gens généralement un petit peu plus disciplinés, en tout cas là-dessus. Et en fait, ici, t'as plus une culture de... C'est pas que j'ai envie d'attendre, mais c'est que si on attend et qu'on se met pas sur la gueule, ça se passera mieux, en fait. C'est fatigant, en fait, de se battre en permanence.
C'est ça.
On peut faire ça aussi, calmement, et ça se passera
bien. Moi, j'ai dit à mes parents, je sais pas comment vous faites, là. Moi, j'habite même pas ici, et je suis stressée, ça me stresse. Je veux pas me battre avec les gens.
C'est ça, moi, c'est clair.
Je veux pas avoir à devoir m'imposer, en fait. Ouais. Et je trouve ça extrêmement fatigant. Enfin, je le fais, hein, naturellement, ça me revient en bonne française. C'est dans les gènes, je pense. Ça me revient et je le fais, mais ça me stresse tellement de le faire que je me dis finalement, j'ai pas envie.
Non, c'est clair, je comprends. Est-ce que tu pourrais répondre à ma petite question traditionnelle de fin d'épisode ? Si on fermait les yeux là tout de suite et que tu devais nous proposer de faire un tour dans l'Alaska de Julie, quels seraient, je sais pas, 2-3 lieux, 1 ou 2 trucs à goûter, peut-être à sentir, j'en sais rien, tu vois, mais des trucs à voir qui font que c'est ton Alaska, tu vois, c'est pas forcément l'Alaska du guide de routard, mais que c'est chez toi, quoi.
C'est une bonne question. Mon Alaska, je pense qu'elle est un petit peu différente de celle des autres.
Tant mieux.
Parce que j'aime faire... En fait, j'aime tout ce qui est très intense. Et donc, en hiver, je vais skier des choses que les gens peuvent accéder en hélicoptère, mais en fait, j'y vais à pied.
Ça doit être sympa, les vacances avec toi. Je sais pas si c'est très reposant, les vacances avec toi.
C'est pas très reposant, en fait. Et c'est pareil, en été, j'adore les très très longues randonnées. Donc je sais pas si les gens peuvent tellement s'y retrouver.
C'est pas grave.
Au niveau des choses un petit peu moins intenses que j'adore, c'est Seward. Donc Seward, c'est une ville qui est peut-être à 2 heures d'Anchorage, 2-3 heures de route au sud. C'est en bord de mer. Et en fait, c'est là où il y a le Kenai Fjord National Park. C'est un parc qu'on peut visiter. Il y a plein d'options pour le visiter. Donc, on peut faire une marche qui arrive sur un glacier. Et c'est vraiment exceptionnel. Et en fait, il y a plusieurs niveaux. Donc, on peut soit aller sur un chemin qui est plutôt plat et on arrive au pied du glacier. Soit on peut faire quelque chose qui est un petit peu plus intense et qui donne des vues sur le glacier. Ou soit on peut aussi prendre son sac à dos et aller camper à côté du glacier. Et donc ça, c'est une partie du parc très intéressant et c'est assez triste. C'est qu'en fait, il montre l'étendue du glacier, à quel endroit était le glacier certaines années en fait. Donc il y a des petits panneaux et ils disent en 1900, le glacier était à cet endroit. En 1950, il était à cet endroit. Et en 1990, il était à cet endroit. Et donc ça montre l'évolution et la disparition du glacier, ce qui est assez triste. Et donc on se rend bien compte que les glaciers disparaissent. Et même, ce qui m'a choquée, en fait, c'est qu'il y a, même il y a 5 ans, en fait, de voir la disparition, même juste 5 ans, c'est rien, 5 ans, en fait, à l'échelle. Et ça m'a vraiment choquée de voir à quel point il avait reculé. Et ce parc, on peut aussi faire une croisière, en fait, et aller voir d'autres glaciers en bateau. Et ça, je le recommande à 2000% si les gens viennent en Alaska et... Et s'il y a une chose à faire, c'est faire la croisière de Kenai Fjord. Il y a des prix qui varient, évidemment, mais le tour un petit peu plus cher, est-ce qu'il vaut le coup ? Il vaut tellement le coup. Ça dure la journée, ils nous amènent voir les glaciers, et puis ensuite, s'il y a des animaux marins autour, ils essayent aussi de voir les animaux marins, donc... des orques de temps en temps. Moi, j'ai pas eu de chance, j'ai jamais vu les orques, mais j'avais vu des baleines à bosse sauter, en fait, des loutres, enfin tout ce qui est animaux marins. Et puis à la fin de la journée, ils vous déposent sur Fox Island, donc une petite île. Et puis vous pouvez, en fait, c'est compris dans le prix, il y a un repas avec du saumon d'Alaska et du king crab, donc du crabe d'Alaska. Et donc ça valait vraiment le coup. Enfin, j'avais adoré faire ça.
Trop bien.
Du côté des randonnées, ça s'appelle Kesug Ridge. C'est pareil, c'est une randonnée avec un sac à dos. Si on est vraiment motivé, on peut faire une partie de la randonnée sur la journée, mais ça reste 13 miles, donc c'est ouais. Quoi, 18 kilomètres ouais. Sur la journée. C'est faisable, mais les journées sont longues en été. Il y a jamais de nuit en été, donc ça aide. Sinon, la totalité, c'est 30 miles. 40 km peut-être. Je pense tout le temps en miles.
Je crois que c'est 50 km, non ?
Et donc, c'est une randonnée, en fait. On monte sur une ligne de crête et puis on a des vues magnifiques de Denali quand il fait beau. Donc, évidemment, il ne fait pas toujours beau en été en Alaska. Donc, il faut être chanceux. Mais quand on le fait et qu'il fait beau, c'est vraiment absolument magique. On a tous ces vues sur toutes les montagnes de l'Alaska et c'est magnifique.
Trop bien.
Et sinon... au niveau de la nourriture, donc on a la troisième pizzeria la plus rentable des États-Unis, je crois.
Sérieux ?
C'est pas
vrai. Okay.
Il y a des gros débats sur cette pizzeria. Ça s'appelle Moose's Tooth. Les gens soit adorent, soit détestent, soit ils disent que c'est trop vendu et qu'en fait, ça vaut pas vraiment le coup. Il y a toujours des heures d'attente, quelle que soit l'heure à laquelle on y va. Et ben moi, j'aime bien, hein, mais bon, c'est pas forcément le plat traditionnel de l'Alaska. On va dire que le plat traditionnel, c'est plus poisson, un saumon et halibut. Du coup, je pense que ça vaut le coup juste parce que c'est tellement disputé en Alaska d'aller faire un tour et d'aller se faire sa propre idée sur ce qu'on pense de Moose's Tooth.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez passé un agréable moment en compagnie de Julie et moi-même. Un grand merci à Julie pour sa générosité dans le partage d'une épreuve. Si elle a su en rebondir avec énormément de force, je sais que ça a quand même été pas un passage très facile de sa vie. Donc vraiment, merci beaucoup à Julie.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la montée de cette fameuse montagne qui a aidé Julie à se retrouver et à y voir plus clair, rendez-vous dans quelques jours, a priori ce sera mercredi, dans votre application de podcast. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on vous le partagera également là-bas pour être sûr de ne rien manquer. Il s'agit d'un épisode super chouette dans lequel vous pourrez suivre pas à pas la montée de cette fameuse montagne pendant 18 jours avec Julie. Et puis, si vous avez aimé French Expat de manière générale, n'hésitez pas à vous rendre sur votre application de podcast ou sur les réseaux sociaux pour parler de votre épisode préféré. Mettez des petites étoiles quand vous en avez l'occasion et n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément à mettre en valeur notre travail et à gagner en visibilité. Allez, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à dans quelques jours pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.